Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres, disait Antonio Gramsci. Dans notre monde globalisé, au sortir de la guerre froide, ces monstres oubliés ont un nom.
Le retour des empires.
Un podcast du magazine Marianne, présenté par Stéphane Auboire.
Les pays arabes du Golfe, ces nouveaux acteurs de la diplomatie mondiale, aujourd'hui le Qatar. Bertrand Besancenot, rebonjour.
Rebonjour.
Après avoir parlé de l'Arabie Saoudite au dernier numéro, nous allons passer aujourd'hui au Qatar. Vous avez été aussi ambassadeur de France, donc entre 1998 et 2002. Alors le Qatar, on en parle beaucoup aujourd'hui via notamment la guerre opposant Israël au Hamas à Gaza. Aujourd'hui, le Qatar a été le principal acteur des négociations, notamment pour la libération des otages. Est-ce que ça vous étonne, cette position, cette capacité du Qatar aujourd'hui, par rapport au Qatar que vous avez connu, d'être au centre quand même d'un jeu international particulièrement chaud et dangereux?
Non, je ne suis pas surpris parce que, si vous voulez, j'ai une longue expérience du Qatar parce qu'en réalité, j'ai d'abord été une première fois en poste au Qatar dans les années 78-81 comme secrétaire d'ambassade. J'y suis retourné comme ambassadeur. Et ensuite, en 2017, lorsqu'il y a eu la crise de l'embargo entre le Qatar et ses voisins, le président Macron m'avait demandé d'être son envoyé spécial pour aider la médiation koweïtienne entre le Qatar et les autres. Donc j'ai continué, si vous voulez, à revenir très souvent dans la région et aller voir nos amis qataris. Donc je ne suis pas surpris parce que le Qatar est certes un petit pays, mais c'est un petit pays très dynamique et qui a une volonté farouche d'affirmer son identité. Ça a été vraiment le principal leitmotiv en 1995, lorsque Cheikh Hamad a renversé son père, parce que précisément, il avait une autre vision de son pays. Il y avait à la fois un pari industriel, c'est-à-dire exploiter le gaz et faire ce que le Qatar est devenu, donc un pari tout à fait réussi. Mais il n'y avait pas que ça. Il voulait également que le Qatar existe en tant que tel, qu'il soit sur la carte du monde, en disant « ce n'est pas parce qu'on est petit qu'on a le droit de se taire ». Et donc Singapour est un petit pays, mais tout le monde sait ce qu'est Singapour. Ça sera la même chose pour le Qatar. Et donc il avait, dès l'époque, utilisé à la fois la chaîne Jazeera, donc c'est l'instrument médiatique, si je puis dire, mais d'autre part, une diplomatie très active de médiation. N'oubliez pas qu'en 2008, c'est le Qatar qui avait fait le premier arrangement au Liban, qui a permis de faire donc les accords de Taif. Bon. Donc, si vous voulez, le Qatar a toujours joué ce rôle, et ça se comprend assez bien quand on est un petit pays et qu'on veut jouer un rôle sur la scène internationale, on ne peut le jouer qu'en étant un médiateur. Et ça, ils l'ont parfaitement compris, et ils ont un sens des opportunités. Donc, je ne suis pas tout à fait surpris que ça soit le cas.
Mais la proximité là, de Doha avec le Hamas, on dit même que Gaza ne tient grâce à l'argent des Qataris, ça pose problème quand même.
Mais écoutez, on oublie une chose, c'est qu'en réalité, l'accord qui est intervenu et qui a permis donc au Qatar de financer l'administration de Gaza, c'est fait à la demande des Américains et des Israéliens. Bon, et pour une raison très simple, c'est qu'effectivement, je l'ai dit, l'administration Netanyahou cherchait donc à marginaliser l'autorité palestinienne et préférait avoir simplement des accords de sécurité sans reconnaissance avec le Hamas. En même temps, la population de Hamas qui vivait dans une prison à l'air libre, avec une population extrêmement jeune, il fallait éviter une explosion sociale. Et pour éviter une explosion sociale, ça a été l'accord entre les États-Unis, Israël et le Qatar, c'est-à-dire que le Qatar a accepté de financer l'administration de Gaza pour éviter cette explosion sociale, et ce qui permettait également à Israël d'avoir une main-d'œuvre palestinienne pas chère. Donc, si vous voulez, quand on présente les choses d'une certaine façon, on oublie encore une fois que c'est à la demande des États-Unis et avec l'accord d'Israël.
Mais on dit quand même que le Qatar est la plaque tournante financière aussi, pas mal pour les frères musulmans. Qu'en est-il en fait ?
Alors, si vous voulez, l'histoire des frères musulmans dans le Golfe est une histoire ancienne. Elle date de l'époque de Nasser, quand Nasser avait mis en prison des frères musulmans et que beaucoup d'entre eux sont venus s'installer dans le Golfe, dans les différents pays du Golfe, où effectivement, ils ont formé, parce que beaucoup d'entre eux étaient des enseignants, ont vraiment formé un peu le système éducatif dans les différents pays du Golfe. Au Qatar, ils ont eu un rôle particulier du fait de la personnalité de Cheikh Kardawi, qui a été ensuite, si vous voulez, l'animateur de la chaîne Jazeera. Et effectivement, donc, les Qataris n'ont jamais... Alors que dans les autres pays, il y a eu, à partir d'un moment, une répression contre les frères musulmans, ça n'a pas été le cas au Qatar. Et puis surtout, en 2011, quand il y a eu les printemps arabes, où on a vu arriver au pouvoir en Tunisie, en Égypte, bien entendu, et puis avec la perspective de les voir arriver éventuellement en Libye, voire en Syrie, il y a eu, si vous voulez, au Qatar même, Cheikh Kardawi disait aux autorités, écoutez, soutenez les frères musulmans, financez-les, et vous deviendrez le parrain du nouveau monde arabe. Et effectivement, il y a eu une époque où on a pu penser, en 2011, que la seule organisation capable, finalement, de prendre le pouvoir, c'était les frères musulmans, et que donc le nouveau monde arabe serait un monde frères musulmans.
Parce que c'est pour ça que les autres pays du Golfe ont fait payer au Qatar, cette position ?
Absolument. Donc, si vous voulez, le Qatar a joué le jeu, et en plus, sur la chaîne Jazeera, comme l'émir de l'époque, cher Hamad, pensait qu'il fallait donner la parole à toutes les sensibilités, qu'elles soient acceptées ou pas acceptées. Bon, je rappelle la discussion que j'avais avec lui, où je lui parlais justement des frères musulmans. Il me disait, bon, je sais qu'en Occident, on ne les aime pas beaucoup. Néanmoins, ce sont des gens qui représentent une sensibilité importante au sein du monde arabe. Eh bien, il faut leur donner la parole à eux comme aux autres. Bon. Donc c'était, si vous voulez, cette préoccupation et en même temps l'ambition de devenir le parrain du nouveau monde arabe, frères musulmans. Bon, la réalité s'est avérée tout à fait différente, puisqu'effectivement ces régimes n'ont pas tenu et donc le Qatar en a tiré les conséquences. Il y a eu aussi, il faut le reconnaître, des pressions occidentales assez fortes sur le Qatar, de sorte qu'aujourd'hui, on peut parfaitement le dire, il n'y a plus de financement public du Qatar vers les frères musulmans. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des fonds privés de différents pays, et pas simplement du Qatar, qui aillent encore aux frères musulmans. Mais il n'y a pas de financement public qatari envers les frères musulmans.
Alors, j'aimerais revenir un petit peu en arrière, parce que c'est vrai que c'est un drôle de pays qui s'est développé par le soft power, donc Al Jazeera, la Coupe du Monde récemment, bien sûr. Entre les deux, encore d'autres activités qui ont été très mises en avant. Mais quel a été le parrain un peu occidental de ce pays ? Là, vous y étiez donc, vous disiez à la fin des années 70, début des années 80. Ça n'existait presque pas, le Qatar. C'était vraiment un pays inconnu. Bon, on sait que c'est la BBC pour Al Jazeera. Il y a eu beaucoup de gens de la BBC qui ont monté cette chaîne, etc. Mais qui est derrière, au niveau occidental ? Qui est le parrain ?
Écoutez, on oublie une chose, c'est qu'au moment de son indépendance, le Qatar souhaitait se distancier en tout cas de la puissance tutélaire britannique. Il ne voulait pas à l'époque des Américains trop proches d'Israël. Et donc, il y a eu un choix qui a été fait par les autorités qataries de prendre comme partenaire principal la France. Et il faut se rappeler qu'entre Cheikh Hamad et Jacques Chirac, qui était Premier ministre à l'époque, il y a eu effectivement une véritable alliance qui a daté de ces époques-là, donc des années 70, au cours de laquelle la France a acquis 80%, enfin est devenue le fournisseur de 80% de l'équipement des forces armées qataries. Donc nous avons été jusqu'en 1995 le partenaire du Qatar, alors que les Américains étaient en Arabie Saoudite, les Britanniques étaient à Koweït et à Bahreïn, à Oman, et nous, Français, nous avions mis l'accent sur le Qatar et sur Abu Dhabi avec Sheikh Zayed. Bon. Ce qui s'est passé en 1995, lorsque le Qatar, avec l'arrivée de Cheikh Hamad, il a voulu développer le gisement gazier et il s'est appuyé très largement sur les Américains, sur les majors américaines qui ont financé très largement le développement du secteur gazier au Qatar. Et là, nous avons perdu effectivement en partie de notre influence. Mais les choses sont revenues un petit peu plus tard. C'était, vous l'avez cité juste avant, la période Sarkozy.
On y reviendra justement.
D'accord. Parce que simplement, si vous voulez, les Qataris sont des gens qui ont un sens des opportunités à toute épreuve. Et quand ils ont vu qu'il y avait un partenaire qui souhaitait jouer le jeu, il y a eu une volonté du côté français. On a fait appel aux Qataris pour la libération des infirmières bulgares. Lorsqu'il y a eu l'opération en Libye, il fallait avoir une caution arabe. On s'est adressé au Qatar. Et donc, si vous voulez, il y a eu à ce moment-là tout simplement un intérêt partagé entre les deux pays. Mais ça ne veut pas dire que la France est le partenaire privilégié, mais c'est en tout cas un partenaire privilégié du Qatar, sans aucun doute.
Je vais vous poser la même question que j'avais posée pour l'Arabie Saoudite dans le numéro précédent. Est-ce que, on l'a vu, MBS en 8 ans a réussi à peu près à lancer son pays, et notamment cette jeunesse, pour en faire peut-être une nation, en tout cas un peuple saoudien, qui n'existait pas véritablement. Qu'en est-il au Qatar par rapport à cela ?
Alors, le Qatar est un tout petit pays, mais il faut reconnaître que notamment la crise de 2017, l'embargo fait par les voisins, et la façon dont ils ont réussi à montrer qu'ils avaient une véritable capacité de résilience d'un côté, qu'ils pouvaient se débrouiller et s'autonomiser totalement par rapport à leurs voisins séoudiens et émiriens, et que ceci, finalement, ils ont eu gain de cause in fine, puisque ce sont les Séoudiens qui, en janvier 2021, ont finalement cessé, au nom de l'ensemble du CCEAG, l'embargo. Donc, si vous voulez, on peut dire que la crise de 2017, il y avait un sentiment national qui existait depuis 1995, les perspectives du gaz, la chaîne Jazeera et tout le reste. Mais on peut dire que c'est vraiment la crise de 2017 qui a très fortement renforcé cette identité nationale qatari. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une nation ? Je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas, il y a une identité qatari qui est claire et nette.
Comment on l'a défini, cette identité qatari ? C'est quoi être qatarien ?
À la fois, ça s'explique sur le plan géographique, parce que c'est une péninsule qui est c'est une population qui est différente de celle des Émirats arabes unis, ce sont des wahhabites, comme les Séoudiens. Mais en même temps, c'est une population qui a fait le choix en 1995 avec Cheikh Hamad d'une ouverture, c'est-à-dire un wahhabisme différent, plus ouvert, et dont finalement, qu'on le veuille ou non, les Séoudiens sont quand même inspirés dans l'ouverture qu'ils font dans leur propre pays. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, le Qatar a fait le choix d'être ce qu'il est, mais en même temps, il a vraiment libéralisé, si je puis dire, avec la chaîne Jazeera, l'image de la communication dans le monde arabe. Il ne faut pas oublier qu'avant la chaîne Jazeera, rappelez-vous par exemple la crise d'Afghanistan, il n'y avait que CNN qui reproduisait. Et justement, c'était la réaction de Cheikh Hamad en disant il est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas une vision arabe de la crise qui couvre dans notre région. Et donc, si vous voulez, il y avait déjà cette identité qui s'est créée, enfin, ce qu'on peut appeler une nouvelle identité, parce qu'autrefois, elle était effectivement un peu faible, mais sur à la fois un projet industriel, un projet de communication et une diplomatie indépendante, une politique de médiation. Et la crise de 2017, le fait qu'il soit retrouvé finalement seul, a amené la population, et c'est très clair chez les jeunes, à dire « nous sommes Qataris, nous sommes différents des autres ». Donc, si vous voulez, ils ont en plus un projet, puisqu'ils ont ces réserves de gaz qui sont en train, ils sont en train de doubler leur exportation. Ils ont un soft power puissant. Et donc, tout ceci constitue l'identité qatari aujourd'hui.
Premier discours public depuis sa défaite contre François Hollande, Nicolas Sarkozy est à Doha lors du forum Doha Goals, le 11 décembre 2012. Je vous le dis comme je le pense. La première raison pour laquelle je suis venu au Qatar n'a pas trait au sport. Dans cette région du monde, il se joue une partie décisive au Qatar. Comment concilier l'identité et la modernité ? Je salue le délicat effort de Doha de s'ouvrir au monde sans renier sa fidélité à l'islam, sa culture et sa tradition. Cher émir, c'est le devoir du monde entier de vous aider. De votre succès dépend l'équilibre du monde. Tout pousse à diviser nos peuples et à affirmer nos identités les unes contre les autres. Le sport est un antidote à cette tentation. Le sport permet de transcender les clivages sociaux, ethniques, religieux. Dans un stade, il n'y a qu'un seul élan, celui de partager les émotions. Je remercie Sepp Blatter pour l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar. Un choix stratégique et politique majeur.
Alors Bertrand Bozon-Snoux, on a entendu une phrase importante de Nicolas Sarkozy dans ce discours, où il dit « Du succès de Qatar dépend l'équilibre du monde ». C'est quand même un peu... C'est fort hein, comme expression.
Alors, je ne vous apprendrai rien en disant qu'en politique aussi, la politesse existe et que parfois, les expressions dépassent les réalités.
Oui, mais là, en l'espèce, c'est une expression un peu forte.
Non, mais si vous voulez, que M. Sarkozy ait voulu saluer ce qui se faisait, ça se comprend. Et il est évident que pour le monde arabe, d'une façon générale, le fait qu'un pays arabe ait été choisi pour être le siège du mondial était une véritable fierté, et notamment pour la jeunesse, parce que la jeunesse, dans la plupart des pays arabes, c'est vrai au Qatar, s'intéresse essentiellement au football. Et donc, que ce soit un pays arabe qui puisse accueillir le mondial de football était effectivement une véritable fierté. Vous savez, et je crois que Sarkozy le signalait également, dans cette région du monde, vous avez un vrai problème de santé, tout simplement parce que le mode de vie des uns et des autres fait que vous avez un taux d'obésité qui est absolument effrayant, sans parler d'autres maladies génétiques et autres. Et l'absence de sport, étant donné le climat, est aussi un des facteurs qui jouent. Donc le fait que l'accent ait été mis au Qatar, comme dans les autres pays aujourd'hui, sur le sport pour essayer justement de changer le mode de vie est important. Et donc le mondial, le fait que ça ait eu lieu dans un pays arabe était un signal en soi. Donc Sarkozy l'a souligné, il a eu raison de le faire, d'autant plus que le Qatar est pour nous un partenaire important. Maintenant, la formule que vous citez, je vous dis, bon, c'est de la politesse diplomatique. Bon, voilà.
Alors, il y a eu la Coupe du Monde au Qatar en 2022, en effet. Je ne sais pas si les Qataris, depuis, font plus de sport. En tout cas, ça a été une caisse de résonance importante, notamment, étrangement, pour le conflit israélo-palestinien. Une caisse de résonance pour les Palestiniens. Puis on a vu aussi quelques problématiques antisémites qui s'y sont jouées, en fait, lors de cette Coupe du Monde, ou en tout cas, et aussi des problématiques avec les Israéliens eux-mêmes qui devaient avoir le droit de venir, qui ont eu moins le droit de venir, etc., etc. Donc, quel est le rapport exactement du Qatar avec Israël aujourd'hui? Vous nous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est étrange, cette double attitude.
Non, si vous voulez, le Qatar a même été relativement pionnier. Moi, je me rappelle quand j'étais en poste à l'époque, donc dans les années 98-2002, vous aviez un poste commercial israélien qui était présent sur place. Et la vérité, c'est qu'il n'était pas commercial. C'était un agent diplomatique que je connaissais bien et qui, en réalité, avait des contacts tout à fait politiques avec les autorités qataries. Bon, les choses n'ont pas abouti et le Qatar n'a pas signé les accords d'Abraham, précisément parce qu'il estime qu'aujourd'hui, la question palestinienne a été marginalisée par l'administration Netanyahou et que tant qu'il n'y a pas quelque chose de sérieux qui soit acceptable aux Palestiniens de fait, il n'y a pas de raison, si vous voulez, de normaliser les relations diplomatiques. Et donc, si vous voulez, de ce point de vue-là, on peut dire que la position qatari et la position saoudienne sont assez proches sur la question palestinienne. Et donc, il n'était pas tout à fait anormal que lors du mondial, ce soit l'occasion d'exprimer ce sentiment, c'est-à-dire ce sentiment de lâchage de la question palestinienne qui n'était pas accepté par le monde arabe. C'était une façon aussi, politiquement, pour les Qataris, de rappeler qu'ils sont un acteur et un acteur qui compte dans le monde arabe.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le Qatar est le pays le plus influent diplomatiquement de la région ?
Non, certainement pas. C'est l'Arabie saoudite, pour des raisons évidentes. Mais le Qatar est un pays qui a réussi, après la crise de 2017, à affirmer son autonomie. C'est un pays qui joue un rôle de médiateur. On a toujours besoin d'un médiateur quelque part. La Suisse a joué ce rôle-là à un moment. La Norvège l'a fait à une autre époque. Il est clair que quand des États ne se reconnaissent pas, mais qu'on a besoin d'avoir un dialogue, et notamment pour des questions d'otages, eh bien, on l'a vu, c'est les Qataris qui ont pris ce rôle-là. Ils ont compris que c'était une niche ou en tout cas un créneau qu'ils ont su saisir parce qu'ils ont ce sens des opportunités et donc ils sont devenus aujourd'hui incontournables, que ce soit sur la gestion avec l'Afghanistan ou sur la crise de Gaza. Mais en termes de poids diplomatique, naturellement, c'est l'Arabie saoudite qui est le plus important. Et puis, bon, les Émirats arabes unis sont un pays qui compte aussi sur le plan diplomatique. Même Oman joue un rôle beaucoup plus discret, mais un rôle de médiateur parfois avec les Iraniens qui est utile. Donc, si vous voulez, le Qatar, oui, est un acteur important, mais ce n'est pas le plus important, non.
On revient donc sur le texte qu'on vient d'entendre du discours de Nicolas Sarkozy en 2012, son premier discours public après donc sa défaite face à François Hollande. Mais donc Nicolas Sarkozy, effectivement, est lié, quand on parle de Nicolas Sarkozy, on pense au Qatar. Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il misé sur ce pays? Est-ce qu'il avait déjà des relations avant, quand il était ministre sous Chirac, etc. Est-ce qu'il y avait déjà une appétence de Sarkozy pour ce pays? Qu'est-ce qui fait qu'il a tout misé sur le Qatar? Ou en tout cas beaucoup?
C'est-à-dire, je crois que à la fois, il y avait, je l'ai rappelé, ce lien privilégié entre la France et le Qatar qui date de l'époque Chirac. Hein. Bon, donc, si vous voulez, au sein du RPR ou de l'équivalent ou du MP, on savait que le Qatar était un partenaire pour notre pays. Les Qataris, je l'ai dit aussi, ont un sens des opportunités. Quand ils ont vu que Sarkozy cherchait un partenaire, ça a commencé par l'affaire des infirmières bulgares, et puis ça a joué ensuite tout simplement sur l'affaire lorsqu'il y a eu les printemps arabes et lorsqu'il y a eu l'opération en Libye, on a eu besoin d'une caution arabe. Et donc c'est à partir de cela que vous avez eu ce mouvement où effectivement on se rendait compte que par exemple Hamad Ben Jassem, qui était le premier ministre qatari, venait quasiment tous les 15 jours à Paris, était reçu immédiatement par le président Sarkozy. Donc il y a eu, si vous voulez, un meeting of minds, comme on dit, entre les deux capitales. Hein. Je veux dire, c'est aussi simple que ça. Donc moi, je ne suis pas surpris. Si vous voulez, il y avait déjà un acquis important qui existait dans nos deux pays. Il y avait une volonté de la part de Sarkozy d'avoir un partenaire dans la région. Et les Qataris l'ont saisi parce qu'ils ont ce sens des opportunités que d'autres n'ont pas aussi prononcé.
Et par la suite, bon, ils rachètent le Paris Saint-Germain, etc., qui est une immense vitrine. Ils se rachètent la capitale française, en tout cas sur le plan footballistique, avec donc une force de frappe énorme. Et on dit souvent que le Qatar, via notamment le Paris Saint-Germain, via un travail de fond fait aussi dans les banlieues, on dit qu'ils sont les promoteurs d'une sorte d'islam pas très, en rapport avec la laïcité française. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Alors, il y a deux choses différentes. La première, c'est que l'ancien émir, enfin, ce qu'on appelle l'émir père aujourd'hui, chez Hamad, est un homme qui a toujours eu une sympathie très forte pour la France. Donc, je veux dire, il a des appartements à Paris où il vient très fréquemment. Il aime se promener dans le quartier, dans différents quartiers, que ce soit le quartier latin, que ce soit la place des Vosges, etc. C'est un homme qui aime Paris et qui a par ailleurs une propriété dans le sud, près de Cannes, où il passe en général tout l'été. Bon. Donc il y a ce prisme français. Il y a deuxièmement l'intérêt, si vous voulez, de l'acquisition de beaucoup de biens immobiliers en France, parce que tout simplement, ils estiment que c'est intéressant. Quand vous comparez les prix de Londres et de Paris, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait une marge et ils ont fait le pari de l'immobilier en France. Et puis en plus, il y avait aussi des relations très fortes, par exemple, avec Lagardère. Et ils se sont rendus compte que dans un pays comme le Qatar, eh bien, avait besoin de rentrer, si vous voulez, dans le monde économique international et avoir des partenaires comme Lagardère, investir dans des pays comme EADS, dans des compagnies comme EADS ou autres, était une façon de garantir, si vous voulez, la sécurité du Qatar. On en revient sur le soft power, c'est-à-dire qu'effectivement, le Qatar est un petit pays entouré de grands pays, de grands voisins. S'il veut assurer sa sécurité, il a compris qu'il était important, justement, d'avoir des amis. Et donc, si vous avez une base américaine au Qatar, qui est la plus importante d'ailleurs au Moyen-Orient, c'est évidemment une forme de garantie vis-à-vis des voisins. Mais il a compris aussi que dans le monde moderne, le fait
d'avoir un véritable soft power, que ce soit par les médias, par le sport, par la culture, eh bien, c'est aussi une façon d'être reconnu. Et quand vous êtes reconnu, eh bien, par définition, on s'intéresse à vous. Quand vous n'êtes pas reconnu, comme un pays, par exemple, comme le Yémen, eh bien, les gens s'y intéressent beaucoup moins. C'est vraiment, j'allais dire, de la réelle politique pure et simple. Bon. Maintenant, pour répondre à la question sur l'islam, je l'ai dit, il y a eu un soutien fort, effectivement, des Séoudiens aux frères musulmans durant toute la période... durant la période des printemps arabes, pour la raison que j'ai évoquée. Ensuite, ils se sont rendus compte que finalement, le rêve de devenir le parrain du nouveau monde arabe ne fonctionnait pas, et ils ont renoncé à ce rôle-là. Il y a eu néanmoins, effectivement, de la part, et je pense en particulier de l'ambassadeur, qui avait fait des propositions de financement dans les banlieues françaises, pensant que c'était une façon effectivement de renforcer l'image du Qatar. Ils se sont rendus compte, devant la réaction qu'il y a eu dans l'opinion publique en France, que c'était une mauvaise piste, ils y ont renoncé. Par contre, sur le plan sportif, l'acquisition du PSG était un rêve et ils avaient déjà en tête, si vous voulez, le mondial à venir. Et donc, effectivement, c'était une opération qui correspondait à la fois au choix français de Cheikh Hamad et en même temps à un calcul intelligent sur le fait que si vous vouliez obtenir la Coupe du Monde, eh bien, il fallait être une puissance, dans le monde du football. Bon, c'est un calcul, encore une fois, a réussi.
Effectivement. Est-ce que le changement de braquet, ou du moins le changement plus exactement de direction, pardon, qu'a apporté Hollande dès 2012 en se rapprochant donc de l'Arabie Saoudite, a créé justement un froid avec Doha, qui était pourtant bien installé depuis Sarkozy, etc. Comment ça s'est passé cet entre-deux-là?
Non, si vous voulez, je sais que les journaux évoquent souvent une compétition entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, ce qui, dans la région, paraît un peu curieux. C'est comme si on parlait d'une compétition entre la France et Luxembourg. Je veux dire, les deux pays ne jouent pas dans la même catégorie. Bon. En revanche, c'est vrai qu'il y a eu, du temps de M. Sarkozy, un prisme qatari, et à l'époque de M. Fabius, je dirais plus que de M. Hollande, hein, c'est Fabius qui menait la politique étrangère de la France à l'époque et était perçu comme tel. Eh bien, il y a eu effectivement, en remerciement de la politique que nous avions à l'égard de l'Iran et de la Syrie, il y a eu effectivement ce prisme pro-français en Arabie Saoudite. Mais je ne peux pas dire, si vous voulez, que ce soit qu'il y a eu un lien avec la politique intérieure. En tout cas, moi, je ne le vois pas. Bon. Maintenant, la relation avec le Qatar, l'Arabie Saoudite, dans la période suivante, c'est-à-dire la période de M. Macron, là, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire, durant le premier mandat de M. Macron, il y a eu un prisme émirien extrêmement fort, qui était très clair. On avait un peu le sentiment que le président de la République voyait la région avec les yeux de Mohamed Ben Zayed, c'est-à-dire un pays qui à la
Mohamed
fois...
Mohamed Ben Zayed, qui est l'émir des Émirats Arabes Unis.
Voilà, enfin, le président de la Fédération des Émirats Arabes Unis et émir d'Abu Dhabi. Effectivement, Mohamed Ben Zayed, enfin, les Émirats Arabes Unis représentaient à la fois une espèce de success story sur le plan économique, et le fait qu'il ait pris la tête de la lutte contre l'islam politique était naturellement bien perçu par nos autorités, enfin, comme par le monde occidental d'une façon générale. Simplement, le fait que nous donnions le sentiment d'avoir un prisme fort à l'égard des Émirats Arabes Unis a naturellement n'été pas bien perçu par le Qatar, notamment à l'époque de l'embargo, pour des raisons évidentes. Et quant aux Séoudiens, ce sont sans doute pour d'autres raisons, où effectivement le fait que le président Macron ait tenté à deux reprises de faire une médiation entre les États-Unis et l'Iran, alors que les autorités séoudiennes, MBS en particulier, appuyaient la politique de M. Trump de pression maximale sur l'Iran, eh bien évidemment nous avions une divergence politique qui était claire. Bon, ceci a été changé à partir du deuxième mandat du président de la République, qui a fait effectivement un certain nombre de gestes, et à l'égard de l'Arabie Saoudite et à l'égard du Qatar. À l'égard de l'Arabie Saoudite, en étant le premier leader occidental à aller à Jeddah en décembre 21 et en recevant ensuite à deux reprises MBS à Paris, il a montré qu'effectivement, nous voyions bien que l'Arabie Saoudite était un partenaire important pour nous. Et vis-à-vis du Qatar, il a fait également des gestes à l'égard de l'émir du Qatar pour justement montrer que nous avions de vrais intérêts également avec ces deux autres pays et que nous n'avions n'ont pas comme seul partenaire les Émirats arabes unis.
On l'a compris, donc la France a des amis à Doha, à Riyad, à Abu Dhabi. Tout va bien donc pour Paris. Bertrand Besancenot, merci. Une troisième partie est prévue d'ici 2 semaines où nous voyagerons cette fois-ci du côté d'Abu Dhabi, mais aussi du Sultanat d'Oman, de Bahreïn et de Koweït.
Le retour des empires.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.